Vous écoutez Radio Arango. You can run on for a long
time. Run on. Restez sur Arango, vous allez suivre maintenant l'émission Une heure avec en compagnie d'Armel et Manu.
Alors aujourd'hui, l'interview d'exception avec Jean-Bruno Chantraine, médiateur. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Armel.
Et Manu. Bonjour Manu.
Bonjour Armel.
Je te laisse la parole Manu, vas-y.
Alors bonjour Jean-Bruno. Donc tu es médiateur professionnel depuis de nombreuses années.
Depuis 2007.
D'accord. Donc peux-tu nous expliquer ce qu'est un médiateur ?
Alors un médiateur, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce que ferait un médiateur ? Peut-être que je pourrais te renvoyer la question, tu vois.
Il fait de la médiation. Jusque-là, j'ai bien répondu.
Oui, il fait de la médiation. Mais en quoi consiste ? Quel est le rôle ? Qu'est-ce que tu pourrais attendre ? Imagine que tu es en conflit avec une personne, que tu n'arrives plus à lui parler, qu'à chaque fois que tu veux tenter une discussion, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu pourrais attendre du rôle du médiateur ?
Mais qu'il nous réunisse et qu'il essaie de nous faire rencontrer et comprendre la situation de ce conflit. Tu dois l'analyser.
Je pense que le rôle du médiateur est donc de prendre connaissance de tous les aspects du conflit.
Tout à fait.
Juridique aussi ?
Certainement.
Alors, déjà, on peut s'arrêter là, et non, pas du tout. Le médiateur ne va pas prendre connaissance du dossier juridique qui est dans les mains des conseils, par exemple. Ou dans les mains, toutes les pièces de huissier, toutes les pièces d'un puzzle d'affrontement judiciaire. Le médiateur professionnel, en tout cas, n'en prend pas connaissance. Par contre, c'était vrai dans ta réponse, qu'il va réunir les parties, c'est-à-dire qu'il va les convoquer. Il va les convoquer d'abord dans un entretien individuel. Et là, les parties vont peut-être arriver avec un dossier épais comme ça, mais ce n'est pas ce qui intéresse le médiateur. Le médiateur, ce qui l'intéresse, c'est de prendre le contexte, les attentes, les enjeux de la personne face à ce qui a détérioré la relation qu'il a avec la personne ou la partie. C'est plus sur le plan humain et émotionnel que le médiateur va recueillir des informations. Avant le conflit, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y a toujours avant un conflit entre deux personnes qui se rencontrent ? Il y a de l'entente. Toujours.
Mais oui, il y a forcément une relation. Mais
systématiquement, dès que tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas commencer par être en conflit, c'est quasiment... c'est impossible. C'est impossible. Tu vas d'abord rencontrer la personne, et s'il y a affinité pour un projet, tu vas faire un projet. Peut-être que tu vas te marier avec cette personne, ou peut-être que tu vas décider de monter une boîte, ou peut-être travailler, parce que ça te plaît, l'endroit. Donc, on ne commence pas par autre chose, une relation, que par de l'entente. Déjà, il faut bien être d'accord là-dessus. Après, issu de cette entente va peut-être jaillir un contrat. Ah oui, alors là, on va noter des choses. Mais est-ce que ce contrat-là, ensuite, lorsque la relation sera potentiellement dégradée, est-ce qu'on ne va pas revenir sur ce contrat et s'en servir pour faire la paix ou plutôt pour ramener encore plus d'huile sur le feu ? Tu comprends ?
Oui.
C'est pour ça que je dis que je ne rentre pas dans l'aspect contractuel ou judiciaire ou juridique du différent. C'est ça qu'amène la médiation dans l'organigramme judiciaire, dans l'articulation de tout ce qui est à notre service. Il amène la médiation, le médiateur amène de la restauration de la relation entre les personnes. Et pour ça, il n'a nul besoin de preuves juridiques ou de dossiers juridiques. Non, ce n'est pas là-dessus qu'il va travailler avec les personnes. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ?
Tout à fait.
il y a deux personnes en relation, est-ce que les conflits, puisque si tu interviens, c'est qu'il y a conflit, ne viennent pas à la base d'un manque de dialogue, de discussion, de compréhension? Parce que s'il y avait tout ça à la base, ce que toi, j'imagine, tu vas essayer de renouer, s'il y avait tout ça, il n'y aurait pas de conflit. Si les bases sont saines, si les choses sont dites, il ne peut pas y avoir de conflit, on est d'accord? Est-ce que ça vient essentiellement de là, ou alors il peut se passer des choses?
Toi, ce que tu dis, c'est que si on arrivait à discuter, on trouverait une solution. Le problématique est quand il y a de l'émotionnel, quand on est impacté par une situation qui se répète avec une personne et que progressivement on rentre dans une forme d'incompréhension et qu'on est impacté, il y a des conséquences directes sur nous, factuelles, on va essayer de dialoguer. Tout le monde va commencer par essayer de dialoguer. Donc c'est pas parce qu'il y a absence de dialogue, au début il y a du dialogue. Ce qui se passe, c'est qu'un amateur, donc une personne lambda, moi je suis un expert de la relation professionnelle, les amateurs vont chercher à discuter et vont pas y arriver. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Ils vont, au début, chacun va essayer de discuter. Ça va parfois être un peu difficile, mais il va y avoir une interaction en disant, mais comment ça se fait que tu arrives systématiquement en retard au boulot? Comment ça se fait que tu me dis que tu arrives, ma chérie, et puis tu viens toujours une demi-heure en retard? Je sais pas, ça peut être dans l'organisationnel avec l'enfant. Il y a une démarche de dialogue au départ, mais si les attentes correspondantes à cette démarche de dialogue ne sont pas satisfaites par la personne qui est impactée, progressivement, le dialogue va se tarir, va se ternir et va arriver à une inimaginable discussion. Et ça va être le rapport de force. Qu'est-ce qu'il y a pour le rapport de force? Il y a plein de choses. Alors là, on a pensé à tout, on appelle l'avocat, on fait un constat d'huissier, on sait qu'il y a un juge qui va trancher, et comme on va bien payer l'avocat, on va en prendre un à Paris, tiens, un qui est fort là. Eh bien, il va nous donner gain de cause, il va nous défendre, et on va traîner la personne en justice, on va essayer de la convaincre via nos preuves qu'on a, jusqu'à la vaincre devant un prétoire. Ça, c'est le système tel qu'il existe. Et la médiation, pourtant, est rentrée dans les textes en 1995, écoutez-moi bien.
Ah oui ?
Oui, 1995, le législateur se dit, il faut passer à la médiation, le Québec est en avance, plus on remonte vers le nord, plus le médiateur est déjà instauré. Nous, c'est 95 seulement qu'il apparaît. Et regardez, on est en 2021 et la médiation est encore extrêmement peu usitée. Et il faut savoir que sur 80 000 différents à peu près en France, il n'y a que 3 000 prescriptions des juges, par exemple, de médiation. Donc on...
C'est dans la loi, ça, de passer par un médiateur avant d'arriver
maintenant,
devant un juge.
Alors maintenant, il y a une obligation, par exemple, dans tout ce qui est du domaine familial. Vous voulez, vous êtes divorcé, vous avez besoin de réaménager par l'organisation avec votre ex-conjoint par rapport aux enfants. Vous allez au tribunal, ils vont vous dire non, non, hop. Vous allez voir un avocat, il va vous dire non, la loi oblige à passer par un médiateur, en tout cas à avoir une information de ce que c'est que la médiation, pour ne plus encombrer les tribunaux, parfois avec des histoires d'organisation qui peuvent se régler justement par le dialogue. Mais les parties ont tellement de bagages émotionnels lourds de ce qui s'est passé, de comment ça s'est terminé, souvent mal, parfois bien, mais quand ça se passe bien, c'est qu'effectivement le dialogue est maintenu. Quand ça se passe mal, c'est qu'on est arrivé, comme je disais, à une inimaginable discussion. Et je vais rendre cette inimaginable discussion possible. Et plus ça sera dans la loi, la médiation, c'est pour ça que les médiateurs professionnels, je ne parle pas des médiateurs amateurs, parce que malheureusement, ça sévit beaucoup, y compris dans les juridictions, hein, il y a des amateurs en médiation qui sont pleins de bonnes intentions, qui ont fait un DU, qui ont été se documenter sur la médiation, qui ont fait parfois même un diplôme d'état de médiation familiale, mais ils n'ont rien à voir dans leur représentation de ce que c'est qu'une relation dégradée avec la médiation professionnelle. C'est pour ça qu'on fait bien la différence. La médiation professionnelle, c'est vraiment un processus structuré de l'entretien individuel jusqu'à la réunion, puis à la deuxième réunion, jusqu'au protocole d'accord, qui est complètement balisé et avec une autre représentation de la personne qu'une personne assujettie à la morale, du rappel à la loi. C'est ce que font un peu ce que j'appelle entre guillemets les amateurs qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui à un moment donné vont dire non, mais ça, c'est pas bien. Une référence au bien, au mal, ou une référence au droit. Mais ça, enfin, vous n'avez pas le droit. Alors que nous sommes sortis de cette dimension moralisatrice ou de droit ou de psychologisation aussi de la personne. La psychologisation de la personne enferme quand on pense que quelqu'un est mytho, ou qu'il est en train de nous manipuler, ou que c'est peut-être un pervers sexuel, ou un pervers narcissique, parce qu'on retrouve... on enferme la personne. Mmh. Et moi, j'ai dans mon cabinet des personnes qui ont eu affaire à d'autres médiateurs, que j'appelle des médiateurs traditionnels, finalement pas amateurs, ça c'est un peu réducteur, mais traditionnels, parce que c'est toujours cette même référence à la morale, au droit, à la psychologie. Et les gens qui ont goûté à ce genre de médiation arrivent dans mon cabinet et disent « Mais ça n'a rien à voir, vous ne faites pas la même chose. » On se sent libre de s'exprimer, et c'est bien le but d'un médiateur professionnel, en fait. Le rôle du médiateur professionnel, c'est de rendre la liberté de décider aux personnes et la liberté totale de s'exprimer, quelles que soient, finalement, les valeurs qui sont exprimées par chacune des parties. La première chose, c'est une action de reconnaissance, que le point de vue est légitime. Ce que tu as fait, tu l'as fait, cette action, tu l'as engagée, parce que tout dans ta tête était cohérent pour faire cette action. Donc reconnaître la légitimité de point de vue, la légitimité d'action, c'est un des premiers rôles du médiateur. Il va être l'acteur de la reconnaissance de la légitimité des parties à avoir fait ce qu'elles ont fait, et peut-être à avancer maintenant. Il y a un constat d'inventaire de ce qui s'est passé, mais on ne va pas rester là-dessus. On va avancer avec l'accompagnement du médiateur sur un nouveau projet relationnel entre les parties, ou une restauration du dialogue et de la relation, ou peut-être une rupture de la relation, réelle, mais consensuelle. On va avancer. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas, en tout cas de la justice, qui renvoie les parties dos à dos, avec un juge qui a tranché, pour, contre, ou avec un pretium doloris, une indemnité, mais il n'y a pas vraiment de relation restaurée. Et je travaille en tout cas en tant que médiateur professionnel à la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, je travaille à vraiment restaurer le dialogue pour un nouveau projet relationnel, quel qu'il soit une rupture, un aménagement ou une reprise de la relation telle qu'elle était avant. Mais en tout cas, toute cette dimension émotionnelle, elle est apurée, elle est reconnue comme légitime.
Est-ce qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu as déjà rencontré ça ou...
Il y a des personnes qui, comme la médiation actuellement n'est quand même pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on a le devoir de rencontrer un médiateur quand on va saisir les tribunaux, mais ensuite on peut quand même à tout moment quitter la médiation, on est libre de ça. Donc si la personne te dit « non, finalement... moi, je n'ai pas envie de réfléchir là-dessus. L'autre, je l'enferme dans mon jugement. Il ne changera jamais. Il sera toujours... Bon, on s'enferme. C'est dommage. C'est dommage. Mais les gens sont, à ce moment-là, tout à fait dans la loi de reprendre la procédure en cours, de recontacter l'avocat. Et moi, je dirais que si les parties, finalement, choisissent... ça m'est jamais arrivé après une réunion. Une fois que les parties ont dit oui à la médiation, généralement... C'est parti. Ouais. Mais ça m'est arrivé qu'à la réunion d'information de la médiation, des parties finalement choisissent peut-être par déficit d'intelligence quelque part, parce qu'ils n'arrivent pas à passer au-delà du jugement qu'ils ont fait déjà sur l'autre personne en disant non, c'est pas possible.
La rancœur, ça bloque.
Qui est énorme. Alors la rancœur, en une demi-heure, on n'a pas trop le temps de la purer. Par contre, s'ils réfléchissent et se disent que la médiation, c'est quand même moins coûteux que des avocats, c'est moins long en temps. En 4 rendez-vous, en un mois, c'est fini.
J'allais te demander comment ça se déroule, mais on va y venir après.
On peut y venir, si tu veux. Mmh. Voilà, les entretiens individuels sont faits, c'est à peu près 1h30 par personne pour saisir les
enjeux. Au préalable,
avant de faire une réunion plénière avec les deux parties. Donc, une fois que cette première réunion est faite, il y a des fois où ça se fait en une réunion, un protocole d'accord est signé et rédigé par les parties. Parfois sur un paperboard, puis ensuite on remet au propre la fois d'après, mais ils sont déjà d'accord. Or, ils sont dans une procédure qui dure depuis 5 ans parfois.
C'est fou ça.
4 ans, 5 ans, des problèmes d'immobilier, des problèmes là. J'en ai fait une où il y avait un problème d'immobilier. Une personne qui contacte une agence immobilière, il y a un contrat qui est fait pour lui proposer des terrains, une maison. Finalement, il n'en veut pas. Et puis finalement. Il n'y a plus de contact avec l'agence, mais il va finir par acheter un bien qui fait partie de mais il ne le sait pas. Qui fait partie de l'agence, du programme de l'agence. Il ne le sait pas et il retrouve sur cette maison sur laquelle il s'était désisté. Et finalement, il rencontre le propriétaire directement. Le propriétaire dit « Non, mais tu peux signer avec moi, il n'y a pas de souci. Non, l'agence, il n'y a plus rien. Les délais sont dépassés. » Or, les délais n'étaient pas dépassés du contrat avec l'agence. clac, ça coince, l'agence est au courant, ils n'avaient même pas payé l'agence pour sa recherche et ils avaient quand même fait un parcours. Donc, il se passe quelque chose, il y a une attaque de chaque côté, les autres disent mais non, on est dans notre bon droit, on avait fini les délais non, on n'était pas. Il y avait une mauvaise,
mauvaise gestion,
puis une confusion aussi sur les dates, les délais. Qu'est-ce qui se passe? Les deux parties, il y en a une qui a attaqué l'autre. Tout de suite, avocat, et là, c'est fini, il n'y a plus de discussion.
Ça bloque.
Donc, les avocats vont chercher à défendre leur parti en disant, mais non, vous n'aviez pas le droit, juridiquement, on est dans les clous, mais même si c'est dépassé, là, là, ils vont trouver. Et les parties ne se parlent plus. Elles appellent leur avocat, alors, comment ça se passe? C'est quand ça, l'audience? On va gagner? Bah, il faut déjà, il faut ouvrir un dossier, etc. Alors, moi aussi, il faut ouvrir un dossier, mais vous voyez que les gens s'enferment finalement dans un affrontement. Et dès qu'il y a eu une réunion, moi, avec ces personnes-là, après les entretiens individuels, une réunion, ils se sont mis d'accord. Ils ont compris mutuellement ce qui s'était passé et que, qu'est-ce qu'on fait? On continue la procédure ou on se met d'accord maintenant? C'est vite fait, c'est vite fait le choix. Et alors après, le problème, c'est que de temps en temps, les avocats ne sont pas contents du tout de perdre cette affaire qui est résolue, le dossier.
Oui.
Et surtout qu'il peut y avoir un accord oral. Si l'accord ensuite est pris de bonne foi et qu'il est exécuté, la médiation a fini. Moi, j'ai mon devoir en tant que médiation judiciaire de revenir vers le juge et les conseils en disant « il y a eu accord, c'est tout ». Je ne peux pas rentrer dans la confidentialité de l'accord, peu importe ce qui s'est passé. Et eux, les avocats, je comprends, ils sont parfois arrivés, ils ont fait leur plaidoirie, ils ont tout préparé, le dossier est prêt, et clac. Il y a un accord qui arrive en médiation, ils ont fait 6 ans de droit, ça leur passe sous le nez. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier, cette profession qui arrive, qui va m'enlever le pain du conflit qui me fait vivre. Un médiateur. Moi, je propose à tous les conseils de venir se former à la médiation et de lâcher leur casquette. Sauf pour des histoires où le juridique est prépondérant. Je veux dire, quand il n'y a pas beaucoup d'émotionnel, vous achetez un portable, il ne fonctionne pas, vous appelez Orange, ils ne répondent pas, vous appelez je ne sais pas quoi, et puis finalement, vous devez prendre un avocat, mais bon, c'est que du contentieux, vous êtes quand même énervé, mais il n'y a pas une personne, une relation qui s'est faite et puis dégradée. Donc là, après, vous avez gain de cause, l'avocat arrive, tac, le dossier était bloqué, bon, c'est fini. Heureusement qu'ils sont là. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils soient là, je dis que
dans les cas où
il y a l'émotionnel qui déborde, il vaut mieux, à la limite, qu'ils reviennent ensuite reprendre les termes de l'accord, si les parties veulent que l'accord soit homologué en justice, pour avoir une force exécutoire de loi, parfois, c'est le cas. Moi, je dis toujours que c'est bizarre qu'ils veulent que ça revienne en justice, parce que ça veut dire que la confiance n'est pas réellement rétablie, qu'il reste peut-être des choses à dire. Alors, on les fait réfléchir, les gens réfléchissent une nouvelle fois, mais s'ils veulent une homologation, je reviens vers les avocats. Là, à ce moment-là, l'accord n'est plus confidentiel, on dit, et les avocats font un magnifique protocole d'accord. Ce sont des grands professionnels du contrat. Justement, ils recèlent un contrat et les parties signent le protocole d'accord.
Thank you. tout à l'heure, tu disais ça peut se passer en une réunion, ça va jusque quatre.
Jusque trois réunions.
Trois réunions, pourquoi voilà. Trois, pas quatre, pas douze?
Quatre, c'est vraiment si j'ai mal géré le temps. Général, à la troisième réunion, je consacre une demi-heure, trois quarts d'heure à la rédaction du protocole d'accord. Les personnes ont eu, il faut dire qu'une réunion, c'est minimum 2h30.
On a le temps de discuter.
On a le temps quand même. La première réunion, c'est généralement les parties se reparlent pour la première fois depuis. Donc c'est très tendu. Je demande au conseil de ne pas être présent, sinon il représente justement l'attaque judiciaire de part et d'autre. Ça marche pas. À chaque fois que les parties ont demandé d'avoir leur conseil pour les protéger, ça s'est mal passé. C'était très tendu. J'ai demandé parfois au conseil de sortir. Parfois les conseils ont éructé d'entendre. Ils sont pas formés comme moi à entendre. Ce qui est légitime de la part de l'autre, ils pensent tout de suite que c'est une arnaque, ils sont dans le jugement, ils sont dans la violence, dans la bataille, et c'est normal, ils défendent leur client. Donc souvent, ils arrivent à comprendre que finalement, la première réunion, surtout pas. Et une fois que les parties ont compris la légitimité du point de vue de l'autre, qu'ils ont reconnu ses bonnes intentions centrées sur lui-même quand il a fait les actions à l'autre, mais pas contre eux, vous voyez ? Quand on fait une action, on est centré sur soi. Quand je vois pour les vaccins, protégez-vous les uns les autres, je fais ça pour protéger l'autre, c'est faux. Je fais ça pour me protéger parce que quelque part j'ai peur. Ou alors je fais ça pour que les autres me considèrent comme quelqu'un de gentil, de bon, de civique. Et ça, c'est toujours pour moi que je veux avoir le regard finalement de l'autre qui me fait du bien. C'est pour moi, là, ça c'est un point qui est très important dans les réunions de médiation, c'est de faire réfléchir au fait de la légitimité, de la bonne intention centrée sur soi, avant de croire qu'on est altruiste, avant de croire qu'on est centré sur l'autre. Non, on est centré sur soi, même quand on se suicide, c'est pour soi, on veut en finir pour soi, c'est pas ni pour l'autre ou ni contre
bien
l'autre.
Sûr, bien sûr.
Donc une fois que les personnes se sont rendues compte en réfléchissant de cet état des choses, ils n'ont plus qu'à regarder l'inventaire et qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes, qu'est-ce qu'on fait avec cette organisation qui ne fonctionne pas. Et on avance. Les gens, très très rapidement, en trois réunions, passent à autre chose, à une vision d'un projet relationnel nouveau et le mettent en place. C'est eux qui le mettent en place et c'est pour ça que c'est pérenne. Alors que la décision d'un juge, si elle fait un mécontent,
ça ne peut pas marcher.
Ça peut pas marcher. Même pour une servitude de passage, finalement. L'autre, il croyait que il était dans son bon droit, qu'il n'y avait pas de servitude. Et finalement, le juge dit qu'il y a une servitude. Mais allez le faire, faire sortir son portail. Même au fusil, il attendra les flics. Parce qu'il est convaincu et il ne veut pas qu'on le contraigne à adopter quelque chose qu'il ne comprend pas, sur lequel il n'a pas réfléchi. Et la loi ne fait pas réfléchir. On le voit bien en ce moment. La loi applique, la loi domine, la loi contraint. Et nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si en plus on l'oublie, bing ! Et bientôt, on va devoir payer nos tests PCR pour pouvoir montrer qu'on est en bonne santé. Enfin, voilà. La loi, on le voit bien, il y a des gens qui l'acceptent complètement, et il y a des gens qui sont très pro-loi, procéduriers, parce que ça les sécurise. Mais s'ils arrivent à regarder la loi différemment et à retrouver une liberté d'être, de décider pour eux-mêmes, ce qui parfois est inconcevable pour eux. Il y a une dimension très pédagogique dans la médiation, où les personnes réfléchissent à l'humain, finalement. Et moi, je connais l'humain un peu de la cave au grenier, donc je peux aider à réfléchir. Pour revenir au rôle du médiateur, il aide à la réflexion. C'est quelqu'un qui aide à la réflexion et qui est l'acteur de la reconnaissance des parties l'une vers l'autre.
Et il y a peut-être aussi à la base une oreille, c'est-à-dire que tu es là pour les écouter. Est-ce que ça, c'est pas important aussi pendant, si tu prends une heure et demie pour écouter cette personne, ce qu'elle a à dire, c'est peut-être vachement important au départ.
Oui, alors c'est pas que l'écouter.
Non, bien sûr que
très
non.
Très vite, on rentre dans une dynamique d'écoute et de réflexion.
Je suis d'accord.
C'est plus que de l'écoute active.
Oui, mais peut-être que c'est, quand il y a un conflit, c'est qu'ils ont beau dire les choses, personne ne les écoute. C'est peut-être ça aussi.
Alors, ils ont leur version des faits et ils ont créé des alliances de personnes autour d'elles qui sont convaincues qu'elles ont raison et donc ils arrivent avec des arguments extrêmement, pour eux, solides, probants. Et la première, l'entretien individuel, évidemment, ils me parlent de l'autre et ils me polluent. Ils m'envoient que des c'est pas des noms d'oiseaux, c'est des qualificatifs. Ah bah oui, les gens, ils sont remontés.
Ouais.
Et s'ils ont pas parfois tué l'autre, c'est que parce que la loi l'interdit. Hein. Il faut bien se rendre compte que les entretiens individuels, ils sont... C'est le moment de faire réfléchir et de désamorcer tout ce qui a été conçu, représenté de l'autre et appuyé par les copains, la famille parfois, contre l'autre. Moi, j'ai fait des médiations à Sartène, c'était hallucinant. Il y avait des générations, il y avait trois générations qui étaient encore dans le conflit. Et les petits-enfants, ils ne savaient même pas d'où datait le conflit, mais ils se regardaient déjà dans le conflit. Et finalement, il y a l'arrière-grand-mère qui voit ça et qui dit « c'est pas possible, je ne veux pas mourir avec ça ». C'est le voisin, c'est du voisinage. Et elle m'appelle, paf. Deux réunions, terminé. Parce qu'on ne peut plus discuter de l'un à l'autre, on connaît l'autre. On sait que dès qu'on va dire même quelque chose, allez, on dit, allez, je vais arrêter le conflit, je vais lui dire pardon. Quoi, tu me dis pardon maintenant? Quoi que dise la personne, ça, le conflit ne peut plus s'arrêter. Par contre, avec une tierce personne, encore faut-il qu'elle soit professionnelle et qu'elle sache où elle va, qu'elle connaisse son métier, eh bien, la triangulaire fonctionne. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas. Je vais porter la parole de l'un, mais elle va passer par mes filtres qui sont neutres, impartiales, complètement indépendant, et on est en toute confidentialité. Donc, tout de suite, la représentation des deux parties tombe, elle dégringole. C'est ça qui permet à la deuxième réunion de déjà avancer sur les bases d'un accord.
Thank you.
Alors Jean-Bruno, tu parlais tout à l'heure de l'arrière-grand-mère qui a voulu remettre sa famille sur les rails. Donc ça veut dire qu'une personne indépendante peut contacter un médiateur.
Oui, un particulier.
Ça s'appelle de son propre chef, sans avoir à jouer avec la justice.
Oui, plutôt que d'avoir le réflexe d'appeler le conseil, on appelle directement le médiateur. Ce qu'on appelle une médiation conventionnelle. Une médiation privée,
d'accord.
Et puis, il y a la médiation judiciaire qui, elle, est prescrite par un juge. Un juge qui au regard du dossier, dit ouais, « ça peut se discuter ». Et donc, il envoie la médiation à un médiateur. Ça devient une médiation judiciaire.
D'accord.
Avec l'accompagnement aussi des conseils, je disais tout à l'heure, sur la finalité de l'accord, éventuellement. Parfois, il y a des gros dossiers qui arrivent. La médiation la médiation professionnelle, en tout cas, n'est pas sectorisée. Je peux très bien faire une médiation en entreprise, qu'en voisinage, que pour des problèmes de succession. Donc, travailler avec des notaires, je peux très bien travailler avec juste du voisinage ou avec une famille. Il n'y a pas de secteur. Finalement, c'est toujours la relation qui est dégradée.
Il y a toujours deux personnes en conflit quelque part.
Mais oui, et puis avec une relation dégradée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je n'ai pas besoin de m'y connaître en bâtiment pour restaurer une relation entre l'architecte, le maître d'œuvre et le client. Et ça, c'est une erreur que pense beaucoup la médiation traditionnelle. C'est qu'il faut s'y connaître, c'est qu'il faut être du métier. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises préfèrent prendre un médiateur en interne, ce qui est une hérésie au niveau de l'indépendance déjà de leur entreprise, pensant que comme elle s'y connaît, elle va pouvoir plus vite trancher. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de médiation traditionnelle, c'est cette action de trancher, finalement, de faire du jugement,
oui,
donc de la référence à la loi, à ce que je connais, technique, et puis après un peu de morale aussi. Ah là, c'était pas bien, la référence au bien, au mal. Ça ne fonctionne pas. C'est jamais pérenne. Et si en plus, le médiateur fait partie de l'entreprise, je vous dis pas le particulier, comme il se sent tout de suite dans la méfiance. Le médiateur professionnel peut donc faire une médiation auprès d'un particulier, comme il peut être saisi par le tribunal. Et dans tous les domaines.
la médiation de la consommation, alors, c'est quoi ?
Alors ça, c'est encore un autre volet.
Mm-hmm.
La médiation de la consommation, elle date finalement de janvier 2016.
C'est récent.
C'est récent, où il y a une loi qui sort pour protéger, pour en tout cas encadrer tout ce qui est sur la consommation. Tout professionnel depuis janvier 2016 est obligé d'avoir un service de médiation pour les particuliers à qui il offre des services et avec qui il n'aurait pas réussi à trouver un accord suite à, service après-vente,
oui,
il n'aurait pas réussi à négocier finalement une sortie de crise. Et bien maintenant, il est obligé de donner gracieusement un service de médiation avec un organe de médiation certifié et agréé par la CECMC, la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la conso, pour le particulier. C'est obligatoire. Même le boulanger doit mettre sur sa vitrine, doit communiquer sur, c'est une obligation légale, hein, sur le fait qu'il est affilié à un organisme lui-même agréé par l'État sur la consommation avec des médiateurs certifiés de la médiation de la consommation. C'est-à-dire que c'est une formation spécifique. Pour être médiateur de la consommation, si je suis juste médiateur professionnel, je ne peux pas. Il faut que je passe une qualification médiateur professionnel de la consommation.
C'est ce que tu as fait.
Oui, c'est ce que j'ai fait dans mon cursus. Je le fais aussi. Donc, mettre en conformité des entreprises, vous voyez, en France, je ne sais pas combien il y en a, de 3-4 millions d'entreprises. Et pour l'instant, cette loi, alors il faut savoir que la DGCCRF, la Direction Générale des Fraudes, qui contrôle la médiation de la consommation, commence à faire des contrôles comme ça, parce que ça fait quand même plus de 4 ans que cette loi existe, et qu'il y a quand même, dans la loi en tout cas, 3000 euros d'amende pour celui qui n'a pas un organisme de médiation de la consommation à son entreprise. C'est quand même extraordinaire.
Moi, je suis absolument ravi parce que grâce à toi, nous,
ça y est,
on est bon.
Vous êtes en régularité. Mais je souhaite évidemment à personne ce contrôle. Le fait est qu'il existe et que de plus en plus, ils sont un peu hargneux parce que ça fait le temps que cette loi est passée. Alors, elle a été très mal communiquée, évidemment.
Voilà, j'allais te le dire parce que moi, c'est parce qu'on en a parlé et qu'on se connaît que je l'ai su.
Exact.
Et que du coup, tout de suite, je me suis mise en conformité et j'ai fait mettre en conformité. Enfin, j'en ai parlé autour de moi pour que les gens le sachent.
Alors,
mais c'est vrai que ce n'est pas super bien...
Ce n'est pas bien communiqué.
Non.
Et en plus, c'est une loi qui prête quand même à confusion parce que, et à même à réflexion. Un peu comme la ceinture de sécurité quand elle a été obligatoire dans la voiture, elle a prêté à confusion aussi. Comment ? Mais je ne vais pas pouvoir sortir de ma voiture si jamais j'ai un accident, mais ça m'entrave, etc. Là, ça serait la ceinture de sécurité anti-conflit, on va dire, pour ne pas engorger les tribunaux aussi. C'est pour ça que le législateur a fait cette démarche, c'est pour imposer aux entreprises et aux petites entreprises comme les grosses, c'est 15 000 euros d'amende qu'elles risquent.
Ah oui.
Donc, tu vois, il y a une marge entre 3 000 et 15 000, bon, suivant le nombre de salariés et suivant le nombre de clients. Parce que le potentiel de conflit vient aussi du nombre de clients. Ceci dit, il y a des entreprises qui, depuis 20 ans, existent et ont eu maintes et maintes occasions d'aller en conflit, mais ont géré ça sans problème et n'ont jamais eu affaire à des tribunaux. Tout d'un coup, ces entreprises sont obligées de payer en plus un service de médiation à la professionnelle. Donc, je comprends très bien que ces entreprises-là disent « Niette, moi, j'en veux pas de cette loi ». Et je discute avec elles et je leur dis « Ben voilà, c'est une obligation légale ». Certes, elle est peut-être mal vécue ou en tout cas mal comprise. Cependant, avec le nombre d'humains exponentiel et le nombre de personnes parfois extrêmement procédurières qui ne veulent rien entendre, plutôt que de vous embêter à tracter avec cette personne, à passer du temps, pourquoi ne pas vous offrir les services de cette...
Délégué,
et puis, en plus, c'est obligatoire d'un tiers extérieur qui, lui, est formé pour ça et qui va effectivement très, très rapidement, mais parfois juste par téléphone, permettre à l'entité professionnelle et l'entité particulière de trouver un accord très rapide. Alors, ça coûte combien ? Parce qu'il faut le dire quand même.
C'est ça,
une médiation de la consommation, hein, c'est 150 euros. Tous les processus dont je vous ai parlé.
Mais c'est pas excessif.
C'est pas excessif. Si vraiment il y a... Et en plus, il y a vraiment... Nous, on prend en charge toute la navette. C'est-à-dire qu'il y a un particulier qui fait une demande de médiation sur notre site. L'entreprise en question avec laquelle il y a le litige, elle est affiliée à notre organisme. Donc, on vérifie avec la personne l'éligibilité, la recevabilité de sa demande, parce qu'il y a des délais. Hein, on ne peut pas tout d'un coup se dire « Ah ben, je veux qu'il me rembourse ma cuisine équipée. »
Qui date d'il y a 20 ans.
Voilà. Bon, ça n'arrive pas. Mais on vérifie ça et ensuite, on va vers le professionnel qui a encore la possibilité de réfléchir et de dire non, non, moi, je ne veux pas de médiation. Il a le droit. Il a 21 jours pour se prononcer. Donc, ensuite, il revient vers nous. Et à ce moment-là, une fois qu'il est d'accord pour qu'il y ait cette médiation, à ce moment-là, les 150 euros sont versés et la médiation commence. Mais juste avant, toutes ces tractations font partie de l'abonnement de l'entreprise, qui est un abonnement qui, pour les entreprises de moins d'1 an, tiens, j'en profite pour le dire, est de 18 euros TTC par an.
Tout à fait.
C'est pas énorme quand même pour se mettre en conformité. Et pour les petits commerçants et artisans, c'est même moins cher, c'est 30 euros TTC pour 3 ans. Les conventions sont de 3 ans. Donc, vous voyez, c'est une loi qui est quand même... Alors, il y a d'autres organismes qui font des prix beaucoup plus chers. Nous, on a réfléchi à cette contrainte de la loi supplémentaire avec tout ce qui existe. Donc, on propose vraiment des tarifs un peu hors pair. Après, quand vous faites 3 ou 4 millions de chiffre d'affaires pour un site de vente en ligne où il y a beaucoup de conflits, etc., bon, les prix
Amazon,
sont pas
pour ne pas les citer, voilà. Non, mais c'est une tellement grosse boîte.
C'est plutôt 1000 euros,
que...
voilà.
C'est normal.
TTC, voilà. Et oui,
toute logique.
Chose. On s'adapte, on fait des devis personnalisés et des conventions sur mesure par rapport aux tailles des entreprises, sachant que c'est une obligation légale. Donc, ça, c'est la médiation de la consommation.
Est-ce qu'on a à peu près fait le tour ?
Je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal, vous avez des questions ?
Mais tu as tout dit, et très bien en plus. Enfin, moi j'ai tout compris.
Ah bon, ben voilà.
Des questions apportent d'autres questions, alors...
Alors Manu, est-ce que tu as d'autres questions ?
Non, ça ira pour aujourd'hui, je pense que...
Bonne digestion.
Ça m'a fait faire connaissance avec le médiateur, parce que souvent on le découvre parce qu'on reçoit un courrier par la justice, avant de passer par le juge, à aller voir le médiateur. Et là, on découvre qu'il y a un médiateur, effectivement.
Mais oui.
C'est pas un numéro qu'on appelle facilement, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. On connaît les avocats, on connaît les juges. Mais le médiateur, pourtant, c'est ancien, quand même.
C'est ça, 95, et c'est pas encore dans les mœurs. Donc ouais,
il faut du temps.
Il faut du temps pour installer une nouvelle profession, ou en tout cas quelque chose de nouveau pour aider la justice.
On n'a pas ce réflexe aujourd'hui, comme tu disais. De suite, on va appeler un avocat.
Oui,
un
parce qu'on est enfermé dans le besoin de vengeance. On est dans la rancune, là, pour le coup. C'est la rancœur plus la rancune. Mmh. Et voir peut-être. Alors après, il y aura du remords, en plus, de ne pas avoir pris un médiateur.
Parce que j'ai l'impression. Je vais finir. J'ai l'impression que grâce à la médiation, les gens sont vraiment face à eux-mêmes à un moment donné. Alors que les avocats ou les amis, comme tu disais, les confortent dans leur défaut.
Je te remercie de cette prise de conscience. C'est vrai que les personnes découvrent une autonomie décisionnelle et une responsabilité face à ce qui s'est passé très rapidement, finalement. Une fois que le médiateur a été un miroir réfléchissant, qui a permis à la personne de réfléchir, elle se dit, bah oui, bien sûr, j'ai ma part de responsabilité. Bien sûr qu'à un moment donné, j'ai pas vu, j'ai pas voulu voir, et puis bah, il n'avait pas. Et j'ai jugé, je suis rentré dans une dynamique de contrainte et de jugement, bien sûr. Et ça, tout être humain est capable de faire cette réflexion.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Jean-Bruno. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de la médiation. On aura d'autres occasions d'approfondir le sujet ensemble.
Avec plaisir.
Merci Manu.
Merci Manu. Jean-Bruno.
Merci aussi Armel.
Et bah à très bientôt.
À bientôt.
Vous écoutez Radio Arango. You can run on for a long time. Run.